Des parents toxiques. Avez-vous connu cela dans votre enfance? Une chose que nous ne mesurons pas toujours avec suffisamment d'attention et de soin, c'est quelle est la trace émotionnelle et psychique que nos parents ont laissée à l'intérieur de nous. Quelle est la trace que nos parents ont laissée sur l'estime que nous avons de nous-mêmes? Quelle est la trace que nos parents ont laissée à propos de l'image que nous avons de nous-mêmes? Et c'est vrai que nous occultons très souvent cette question parce que nous baignons dans une ambiance, que nous soyons dans un monde judéo-chrétien, que nous soyons dans un monde islamique, que nous soyons dans beaucoup de cultures, il nous est dit et il nous est rabâché à longueur d'année que nous devons respecter nos parents, que nous devons aimer nos parents, et cette injonction fait que finalement nous allons occulter un certain nombre de choses que nous avons vécues de manière toxique avec nos propres parents. Parce que c'est vrai, et maintenant, c'est une très bonne nouvelle, c'est que les professionnels de la relation d'aide finissent par reconnaître le fait qu'un certain nombre de comportements chez les parents ont été des comportements totalement toxiques pour les enfants que nous étions, à une époque où nous étions sans défense. Et je me baserai pour faire cette petite vidéo sur un livre dont je vous recommande la lecture si vous vous reconnaissez à travers ce que je vais dire aujourd'hui. C'est un livre de Suzanne Forward qui s'intitule « Parents toxiques » et il y a une citation de Suzanne Forward dans son livre que j'aime beaucoup, où elle dit en début de son livre « Nous ne sommes pas responsables des violences que nous avons subies et des traumatismes que nous avons subis de la part de nos parents alors que nous étions des enfants sans défense. » Nous ne sommes pas responsables de cela et malheureusement, quand on a subi des situations toxiques, eh bien, très souvent, nous portons en plus, même encore en tant qu'adultes, la culpabilité de ce que nous avons subi alors qu'il était totalement injuste de nous faire subir ces choses. Mais elle poursuit, Suzanne Forward poursuit sa citation en disant « Mais par contre, nous sommes responsables des décisions positives que nous pouvons prendre pour surmonter ces expériences que nous avons vécues. » Et c'est un peu ça que j'aimerais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo consacrée aux parents toxiques, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir prendre des décisions positives et poser des actes positifs qui vont vous permettre de surmonter toutes ces épreuves que vous avez subies lorsque vous étiez petit. Bien, alors évidemment, c'est quoi des parents toxiques? Eh bien, Suzanne Forward, dans son livre, en décrit 7 catégories différentes sur lesquelles je vais passer très très rapidement, parce que ce qui m'intéresse évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cela. Mais je veux quand même vous donner un aperçu de l'étendue de la toxicité de tous les comportements que les parents peuvent avoir. Et la première catégorie est une catégorie assez surprenante, puisque c'est la catégorie des parents Dieu. Des parents qui donc se sont présentés auprès de leurs enfants comme des parents parfaits, comme des parents avec une exigence de perfection, avec une exigence de perfectionnisme. Alors bien entendu, l'enfant n'est pas capable, à l'âge qu'il a, de discerner que ses parents sont effectivement parfaits. Déjà, l'enfant a tendance à considérer ses parents comme des dieux, mais si en plus les parents revendiquent le fait d'être parfait, eh bien, ça va avoir comme conséquence toxique que l'enfant, petit à petit, ne se sentira jamais à la hauteur des attentes que les parents ont vis-à-vis de lui, avec comme conséquence une dévalorisation de soi qui peut être très importante. Deuxième catégorie de parents, c'est un peu l'inverse, ce sont les parents déficients. Vous savez, ce sont les parents qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités d'adultes, les parents qui n'assument pas les responsabilités qu'ils ont en tant que parents. Vous l'avez certainement déjà vu dans votre entourage ou vous l'avez peut-être vu dans des films de cinéma, c'est le genre de parents qui n'assument pas la vaisselle, les repas et où finalement ce sont des enfants de 8, 9, 10 ans qui, lorsqu'ils rentrent de l'école, avant de faire leurs devoirs, vont faire la vaisselle. Vont préparer leur repas pour leurs petits frères et petites sœurs, qui vont devenir éventuellement les confidents de papa ou de maman, c'est-à-dire qu'ils vont jouer aux thérapeutes, qui vont prendre soin finalement du ménage, mais prendre soin aussi de la santé psychique de papa et de maman, parce qu'ils sont absolument incapables de s'assumer. C'est-à-dire que là, il y a un renversement de rôle avec une charge énorme qui pèse sur les épaules de l'enfant à un âge où l'enfant devrait normalement aller jouer et faire ses devoirs, mais pas assumer les tâches d'un ménage, évidemment. Bien. Troisième catégorie de parents toxiques, ce sont les parents dominateurs. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas vous faire de grands dessins pour cela. Ce sont les parents dictateurs, les parents qui vont imposer à l'enfant un mode de pensée, un mode d'action, même si ce sont des impositions qui ne sont pas légitimes, même si l'enfant se rend bien compte que ce n'est pas adapté, on va imposer tout le temps à l'enfant une façon particulière de se comporter. Donc la conséquence pour l'enfant, c'est que l'enfant va adopter la croyance que, de toute façon, quoi qu'il pense, il a toujours tort, quoi qu'il arrive, il doit toujours se soumettre, et la satisfaction de ses besoins ne sera jamais légitime. Et donc, du coup, lorsque nous devenons adultes, eh bien, nous continuons à nous sentir coupables du fait de prendre soin de nos besoins, parce que nos parents nous ont imposé un mode de vie où, finalement, nos besoins légitimes n'étaient jamais légitimes. Quatrième catégorie de parents toxiques, ce sont les parents alcooliques. Évidemment, ça, là aussi, je ne dois pas vous faire des grands dessins. Le spectacle d'un père ou d'une mère qui est complètement sous, que l'enfant va devoir traîner jusqu'au lit, va devoir peut-être déshabiller son père ou sa mère pour le mettre au lit. L'enfant qui va devoir cacher les bouteilles pour que le parent ne trouve pas les bouteilles et ne se saoule pas. Quand ce n'est pas en plus l'enfant qui va devoir se cacher pour ne pas recevoir les coups du parent lorsque ce parent est complètement sous. Plus alors la nécessité de maintenir une image sociale tout à fait respectable par rapport au monde extérieur. Et ça aussi, ce sont des charges qui sont énormes pour la psyché de l'enfant et que l'enfant va vivre finalement comme un traumatisme à long terme parce qu'il devra toujours maintenir les apparences alors qu'il sait très bien ce qui se passe à l'intérieur, mais il fait partie du mensonge familial. Cinquième catégorie de parents toxiques, ce sont les parents qui sont violents verbalement. Et c'est une violence qui est très insidieuse parce que comme il n'y a pas de coups, comme il n'y a pas de blessures visibles, les enfants vont rarement être reconnus au niveau de ces violences quotidiennes, ces violences banales du quotidien. Ce sont, vous savez, les petites railleries, ce sont les petits mépris, ce sont les jugements que l'on porte, les moqueries que l'on a vis-à-vis de l'enfant qui va avoir, si c'est répété de façon quotidienne ou presque quotidienne, qui va avoir des conséquences et des répercussions sur l'estime de soi, sur l'image que l'on a de soi, qui va être de plus en plus dramatique et de plus en plus profonde et qui fera que finalement, en tant qu'adulte, on n'aura totalement pas confiance en nous parce que nous aurons subi toutes ces vexations tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Sixième catégorie de parents toxiques, ce sont les parents qui sont violents physiquement cette fois-ci, qui utilisent le bâton, qui utilisent les coups de poing, qui utilisent la ceinture de cuir, etc. pour punir les enfants. Très souvent, là, d'ailleurs, les enfants ne savent pas pourquoi ils sont punis. Et donc, il peut y avoir même parfois des situations où le grand frère ou la grande sœur va s'accuser des bêtises de son petit frère ou de sa petite sœur pour que le petit frère ou la petite sœur ne reçoive pas les coups et donc va apprendre à prendre les coups à la place des autres pour que les autres ne souffrent pas trop. Et ces violences physiques, évidemment, vont avoir des répercussions. Je pense que là aussi, je ne dois pas vous faire des grands dessins, des répercussions sur, je dirais, la confiance que l'on peut avoir en soi et l'estime que l'on peut avoir de soi. Parce que finalement, à force de recevoir des coups, on va finir par croire que peut-être ces coups, on les mérite. On ne sait pas pourquoi on les mérite, mais on sait que si papa ou maman me donne des coups de façon régulière, c'est que probablement je suis coupable de quelque chose qui fait que j'ai mérité ces coups. Et c'est encore plus pervers lorsque le père ou la mère va nous dire que c'est pour notre bien qu'il nous fait subir cette violence physique, parce qu'il veut nous dresser, il veut nous éduquer, il veut nous apprendre à être humble, à être modeste, mais ce n'est absolument pas de la modestie ou de l'humilité, c'est simplement de la destruction de personnalité. Alors, dernière catégorie de parents toxiques, évidemment, c'est celle à laquelle on pense tous, ce sont les parents qui se rendent coupables d'abus sexuels, qui se rendent coupables de viols sexuels à l'égard de leurs enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles, ou même parfois des adolescents ou des adolescentes, qui va avoir évidemment je dirais que l'inceste et le viol sexuel, c'est la trahison suprême, parce que finalement, nos parents qui sont supposés être ceux qui protègent l'enfant qui est par définition un être sans défense, eh bien, ce sont eux justement qui vont atteindre au plus profond l'intégrité et le respect de soi-même chez l'enfant qui aurait dû compter sur son père et sa mère pour être protégé de ce genre d'agression. Et à partir du moment où ça se passe à l'intérieur d'une famille, de la part du père, du beau-père, des grands frères, etc., eh bien, je dirais que ça, c'est le traumatisme majeur qui va nécessiter, dans quasiment tous les cas, un accompagnement avec des professionnels de la relation d'aide. Vous ne pouvez pas vous en sortir la plupart du temps. Si on se base sur les expériences cliniques, on ne peut pas s'en sortir tout seul lorsqu'on a subi des viols, lorsqu'on a subi des abus sexuels. Par contre, c'est en même temps... en psychothérapie et dans les thérapies spécialisées, qu'on a les résultats les plus spectaculaires et qu'on peut vivre les guérisons les plus spectaculaires. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je dirais. Bien, maintenant que nous avons fait un tour d'horizon des parents toxiques, et j'imagine que peut-être vous avez reconnu des caractéristiques de certains parents auxquels vous ne pensiez pas au départ, et pourtant, il y a une toxicité dans un certain nombre de comportements. Maintenant, la question, c'est: comment fait-on pour guérir de parents toxiques? Comment fait-on pour se libérer de parents toxiques? Alors, la première réponse qui vient spontanément, ce serait de dire, il faut pardonner à nos pères et nos mères, il faut leur pardonner parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un piège, qui est un grand piège. La plupart des thérapeutes qui recommandent à leurs clients de pardonner à leur père, à leur mère, ces violences verbales, les violences physiques, les manipulations, les railleries, les incestes, etc., en fait, le font très souvent parce qu'ils ne savent pas très bien quoi faire avec ce genre de détresse. Et donc, je dirais que c'est un peu la solution de facilité qui est préconisée par un certain nombre de thérapeutes, mais... je dirais que l'expérience et l'observation clinique ne résistent pas à l'analyse et nous fait montrer effectivement que le fait de pardonner ne sert strictement à rien. Au contraire, ça retarde d'autant plus le processus de guérison. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, alors je ne dis pas que tout à la fin du processus de guérison, on ne peut pas essayer de vivre un certain pardon, je vais y revenir à la fin de cette vidéo, mais... de commencer une thérapie en disant « Oh, j'ai fait la paix avec mon père qui m'a violé pendant 4 ans, j'ai fait la paix avec ma mère que j'ai dû prendre en charge pendant 10 ans alors qu'elle était dépressive, etc. » Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que comme nos besoins n'ont pas été respectés pendant des années, nous avons une colère à l'intérieur de nous qui doit sortir. Cette colère, elle est là comme un indicateur, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos auquel je vous renverrai à la fin de cette vidéo. Les émotions sont là pour nous indiquer que des besoins ne sont pas satisfaits. Et cette émotion de colère, elle est totalement juste, elle est totalement légitime. Elle est là pour nous dire, pour nous confirmer que quelque chose de fondamental n'a pas été respecté dans notre vie. Et donc, dans un premier temps, nous allons avoir besoin d'exprimer notre colère à l'égard de nos parents. Alors, on ne va pas nécessairement le faire vis-à-vis de nos parents directement dans un premier temps. On va le faire avec un thérapeute, on va le faire dans un groupe de thérapie, mais il va falloir que cette colère sorte. Parce que quand vous allez vous donner la permission de sortir cette colère, eh bien, vous allez en même temps reconnaître le fait que vos besoins ont été bafoués pendant des années, vos besoins ont été bafoués pendant ces années où vous étiez sans défense. Et c'est vraiment important de commencer le processus thérapeutique par là. Deuxième étape du processus thérapeutique, c'est d'apprendre petit à petit à devenir des adultes à part entière. Je consacrerai une autre vidéo sur cette notion d'adulte. C'est quoi être un adulte finalement ? Vous savez, la plupart d'entre nous avons quitté le domicile de papa et de maman depuis des années, mais nous ne les avons jamais quittés sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que nous continuons à nous comporter comme si nous attendions encore l'approbation de papa ou de maman, comme si nous nous comportions en référence aux réactions que papa et maman pourraient avoir vis-à-vis de nos comportements. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas encore adultes émotionnellement parce que nous sommes encore dépendants de leur regard sur nous, même si nous habitons à 3000, 5000, 10000 kilomètres de papa et maman, mais l'ombre de papa et de maman plane sur nous. C'est un peu comme dans le film Amadeus, je ne sais pas si vous vous souvenez, où même lorsque le père de Mozart est mort, il y a cette ombre avec le masque noir et cette cape noire, cette ombre du père qui plane encore sur la vie de Mozart. Et bien, c'est un peu la même chose, si vous voulez, c'est que nous allons devoir faire tout un travail de nous libérer du regard de papa et de maman. Nous allons devoir quitter émotionnellement papa et maman pour devenir petit à petit adultes et pour ne plus dépendre de leur opinion ou de leur réaction. Alors, une fois que nous serons sortis de cette dépendance émotionnelle, eh bien, nous allons pouvoir passer à la troisième étape du processus de guérison. Et la troisième étape du processus de guérison, c'est une étape d'autonomisation. Alors, l'autonomie, elle va un pas plus loin que cette sortie de dépendance, parce que dans l'autonomie, je ne suis plus dans la réaction, mais je suis simplement dans la réponse. C'est-à-dire que si papa ou maman me fait des commentaires sur mon choix de vie, mon choix vestimentaire, le choix de conjoint ou de conjointe que j'ai dans ma vie, etc., je ne vais pas réagir, parce que réagir, c'est encore être dépendant. Je vais simplement répondre en affirmant ma réalité telle qu'elle est. Voilà. Je vais prendre soin de mes besoins aussi, même si papa et maman désapprouvent en disant « qu'est-ce que tu fais là ? Tu prends des vacances alors que tu n'as pas des sous. Écoute, j'ai besoin de prendre des vacances, je prends des vacances. Et de toute façon, je ne pense pas que ce soit toi qui payes mes vacances. Alors, c'est quoi l'objet de ta question là ? C'est quoi l'objet de ton interprétation ? C'est-à-dire que vous voyez que on va sortir d'une croyance que nos parents nous ont instillée dans notre esprit qui est « nous sommes égoïstes chaque fois que nous prenons soin de nos besoins » à « eh bien, nous prenons soin de nos besoins, nous sommes centrés sur les besoins. » De la même façon que je ne suis plus dans la réaction et dans l'agression vis-à-vis de mes parents, mais je suis simplement dans « je vous donne une explication, ok, vous voulez savoir pourquoi je fais ça ? » Eh bien, voilà l'explication. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est le même prix, je suis adulte et je ne dépends plus de vous. Voilà, ça c'est la phase d'autonomie, qui est une phase qui demande du travail sur soi. Ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau, mais c'est vraiment un travail qui vaut la peine d'être fait, de se dire finalement, est-ce que je suis encore dans la réaction par rapport à mes parents, dans la justification, ou est-ce que je suis simplement dans une attitude où j'affirme de façon très sereine et très posée ma réalité ? Après ça, nous allons pouvoir passer à la quatrième étape du processus de guérison par rapport aux parents toxiques, qui est faire la part des responsabilités. Et la part des responsabilités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'un côté, ne plus prendre la responsabilité des comportements que mes parents ont eus vis-à-vis de moi. Si mes parents ont eu des comportements destructeurs sur le plan verbal, sur le plan physique, si mes parents ont abusé de moi, si mes parents ont été dominateurs, si mes parents parents ont été alcooliques, si mes parents ont été déficients, si mes parents ont été perfectionnistes, etc., reprenez toutes les catégories, ce n'était pas de ma responsabilité, ce n'était pas de ma faute. À l'époque, j'étais un enfant sans défense et je n'avais aucune responsabilité dans le choix qu'ils ont fait d'adopter ces comportements. Et ce n'est pas vrai que c'est mes comportements ou mes habitudes ou mes attitudes qui ont provoqué ces réactions chez papa et maman. Et pourtant, il y a un certain nombre de parents qui vont en plus nous culpabiliser en nous disant « Tu sais, je suis devenu alcoolique parce que tu pleurais toutes les nuits. » D'accord, mais il y avait d'autres façons de réagir et ça, c'est ta responsabilité d'avoir choisi cette façon de réagir aux pleurs que j'avais pendant la nuit. Ce n'est pas ma responsabilité. Et je crois que ça, c'est vraiment important de rendre à nos parents la responsabilité de leur comportement. Par contre, je vais prendre la responsabilité de ma colère. Si je suis en colère aujourd'hui par rapport au fait que mes besoins ont été bafoués, eh bien, j'en prends responsabilité. Je ne me sens pas coupable du fait de me sentir en colère par rapport à mes parents. Parce que c'est sain. Cette colère signe le fait que, effectivement, j'ai été abusé, effectivement, je n'ai pas été bien traité par mes parents et j'assume complètement le fait qu'il est légitime aujourd'hui que je vive de la colère par rapport à eux pendant un certain temps, pendant le temps qu'il sera nécessaire de vivre. Je peux aussi, c'est toujours des éléments de responsabilité, commencer à faire mon deuil. Je vais faire mon deuil des parents idéaux que je n'aurais jamais eus. Je vais faire le deuil aussi de tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je vais reconnaître la réalité de ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant, eh bien, il va falloir que j'apprenne à faire le deuil de cette réalité. Donc, faire le deuil, c'est reconnaître que les choses se sont passées. C'est-à-dire aussi sortir du déni. Parce que nous avons très tendance, lorsque nous avons subi les parents toxiques, nous avons tendance à nier le caractère toxique de nos parents. Nous avons tendance à dire « c'était pas si grave que ça finalement, oui, c'est vrai qu'ils m'ont battu pendant des années, c'est vrai qu'ils m'ont violé, etc. » Mais il y a des enfants qui étaient bien plus malheureux. Non, arrêtez là. Arrêtez de nier l'évidence que vous avez été maltraité. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez reconnaître cette maltraitance, vous allez pouvoir commencer à faire le deuil de cet idéal que vous n'avez pas vécu. Et dernière chose en termes de responsabilité, c'est que vous allez pouvoir prendre la responsabilité aussi des réactions autodestructrices que vous avez entretenues peut-être trop longtemps avant de prendre les décisions positives pour surmonter ces épreuves. Donc là aussi, il ne s'agit pas de vous culpabiliser de nouveau, mais de dire « Ok, c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai réagi à cela, à ce traumatisme, en m'auto-détruisant, en me droguant, en me prostituant, en m'auto-dévalorisant, en étant délinquant, etc. etc. » Ok, je prends la responsabilité de cela, mais maintenant, je choisis un autre chemin et ça aussi, je vais en prendre la responsabilité. Avant-dernière étape du processus de guérison, c'est ce que j'appelle l'étape de confrontation. Et pour moi, la confrontation n'a rien à voir avec un conflit. Dans une confrontation, il y a une volonté à rencontrer l'autre, c'est-à-dire papa ou maman ou les deux, pour leur dire ce que j'ai subi lorsque j'étais petit. Et que je n'avais pas les mots à l'époque pour articuler ce que j'ai subi sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, dans la situation avec eux. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir toutes les réactions du monde possible. Vous pouvez avoir des réactions de culpabilisation en disant « tu vas faire mourir ta mère » en disant des choses comme ça. Ou « t'es pas honteux, je te renie jusqu'à la fin de mes jours, etc. » Ok, ça fait partie des risques de la confrontation. Et vous n'êtes même pas obligé de passer par cette phase de confrontation, parce que peut-être pour certains d'entre vous, votre père, votre mère sont morts depuis un certain temps. Donc, la confrontation n'aura jamais lieu de façon physique, de façon réelle, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec un thérapeute. La confrontation, donc, c'est simplement de dire « Voilà, je veux que vous sachiez maintenant ce que j'ai subi lorsque j'étais petit et je n'attends rien de vous. Simplement, je vous donne cette information et vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, maintenant, j'ai fait un travail pour reprendre mon autonomie et pour reprendre le pouvoir sur ma propre vie. Et si... Et seulement si mes parents expriment un sincère regret. Ils expriment une volonté de réparer quelque chose, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais vivre un pardon avec eux. Mais le pardon ne sera même pas nécessaire. Peut-être que le seul pardon que je devrais vivre, et je ferai une vidéo aussi sur le pardon de façon complète, eh bien, le seul pardon que je pourrais peut-être vivre, c'est un pardon vis-à-vis de moi. C'est me pardonner d'avoir attendu aussi longtemps avant de prendre la décision positive de surmonter ces expériences que j'ai vécues jusqu'à présent. Alors peut-être que ces décisions positives, vous allez la prendre après avoir écouté cette vidéo, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais ce que je vous dis en tout cas, c'est que c'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui va demander le courage de replonger dans un certain nombre de situations désagréables, ça va vous demander le courage de regarder en face la réalité telle qu'elle était, mais en même temps, c'est un chemin qui vaut vraiment la peine d'être vécu, parce que en faisant cela, non seulement vous allez devenir des adultes, mais vous serez libérés de la toxicité de vos parents à tout jamais. Quatre choses à vous dire rapidement. Première chose, merci pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Continuez comme ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et vous enrichissez de cette façon la communauté apprenante de tous ceux qui fréquentent cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous voulez aller plus loin, vous voulez avoir d'autres réflexions complémentaires par rapport au sujet d'aujourd'hui, eh bien voici mes deux suggestions du jour. Il vous suffit de cliquer sur une des deux images pour aller plus loin dans la réflexion qui a été menée aujourd'hui. Troisième chose, si vous voulez être prévenu de chaque mise en ligne d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de l'image pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Quatrième et dernière chose, merci à tous ceux qui partagent déjà le lien des vidéos à ceux qui leur sont chers. Je pense qu'en faisant comme cela, vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous sont chers et en leur proposant gratuitement les réflexions que je vous partage tous les vendredis matin. Alors, à très très bientôt. Merci pour votre coopération. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre engagement à grandir en conscience, en amour et en compétences.